Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Et comme chaque semaine, je vous retrouve avec plaisir et avec Liliane Niacha. Ma chère Liliane, à nouveau confinée à partir de ce samedi et nous compatissons bien sûr.
Bonjour Saint-Ish, quelle délicate attention, très touchée et je vous en remercie ma chère Saint-Ish. Et nous allons commencer notre premier sujet, c'est le Mali. Le collectif des victimes dénonce une justice tronquée. Après l'extinction de la procédure judiciaire contre le général Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés dans l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges.
Ils ont tous recouvert leur liberté grâce à la loi d'entente pour la réconciliation nationale, inacceptable selon les familles des victimes et les organisations de défense des droits de l'homme. Justice éludée ou réaliste dans le contexte actuel du Mali en pleine transition. Le débat à suivre.
Au Tchad, le maréchal candidat Idriss Déby Itno a-t-il réussi à dérouter, à déjouer les plans de l'opposition en recevant contre toute attente l'une de ses figures, succès Masra? Le président des transformateurs a réitéré sa demande de report de la présidentielle du 11 avril prochain.
Impossible, répondent plusieurs voix dans le camp du maréchal, déjà en pleine campagne électorale. Critiqué après cette audience avec le président sortant, certains estiment que Succès Masra a posé un faux pas politique, Liliane.
Malgré la forte présence des forces du G5 Sahel dans la zone des trois frontières, le Niger a de nouveau été endeuillé. 58 personnes ont été tuées cette semaine dans une attaque terroriste dans la région de Tillabéri.
Deuxième attaque du genre dans la région en 3 mois. Les terroristes s'en sont pris à des villageois qui revenaient d'un marché hebdomadaire avec un mode opératoire qui évolue. La question, les terroristes de la zone montent-ils en puissance? Analyse et commentaires à suivre, Liliane, avec notre panel.
Merci Saint-Ish et voici justement le panel. Notre grand témoin est Aguibou Boiré, président de la Commission nationale malienne des droits de l'homme. Monsieur Boiré, bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'être avec nous de Bamako. Vous êtes expert consultant, juriste d'affaires. Et nos journalistes cette semaine sont Ange Ala Issem, journaliste à Radio FM Liberté, à N'Djamena au Tchad. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et en ligne de Niamey au Niger, Gary Amadou, directeur de publication du journal Canard Déchaîné. Bonjour, Gary Amadou.
Bonjour, madame.
Et on ouvre notre premier sujet avec vous, Saint-Ish, le Mali.
Le Mali, un procès fleuve et éprouvant pour les familles des victimes et qui n'aura finalement aucun verdict. Le général Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés sont ressortis libres et les poursuites abandonnées par le tribunal de Bamako en début de semaine. Le procès devait permettre d'élucider les conditions dans lesquelles ont été tués 21 éléments de l'unité des bérets rouges restés fidèles au président Amani Toumani Touré lors du putsch de 2012, putsch mené par le général Sanogo, alors capitaine. Il a fallu attendre 2013 pour que lui et ses co-accusés soient mis en examen. Le procès ouvert en 2016 s'est enlisé, puis interrompu. Janvier 2020, les accusés bénéficient d'une remise en liberté provisoire. Entre-temps, sous l'ex-président Ibeka, les députés maliens ont voté en 2019 la loi d'entente sur la réconciliation nationale qui accorde l'amnistie pour tous les crimes commis lors de ce putsch. Et c'est justement au nom de cette loi donc que le procès Sanogo a été arrêté. Monsieur Boiré, vous avez traité cette loi de scélérate, une loi que vous aviez déjà dénoncée à son adoption, mais la vérité c'est que cette loi existe. Selon vous, qu'est-ce que les juges de la cour d'assises auraient dû faire dans le procès Sanogo?
Merci beaucoup, madame. Nous sommes constants et cohérents par rapport à la protection et à la défense des droits de l'homme. Ce procès a traîné en longueur. En son temps, nous l'avons dénoncé et nous avons même réclamé la mise en liberté provisoire des personnes poursuivies. Parce que tout simplement, la loi malienne prévoit que la détention provisoire en matière criminelle est de 3 ans. Maintenant, lorsque le procès a repris, on s'en est réjoui. Mais on était loin d'imaginer qu'on allait mettre un terme à la procédure judiciaire en prétextant d'une loi dite d'entente nationale. Vous l'avez rappelé, son temps, nous avons dénoncé cette loi et à cause vraiment... des articles ou des dispositions qui violaient purement et simplement les droits fondamentaux des populations. Et nous sommes toujours sur ces registres, mais grâce à notre lutte à l'époque, on a pu insérer quand même l'article 4. L'article 4 de la loi qui soustrait expressément du champ d'application de la loi un certain nombre de crimes. Des crimes de guerre, des crimes imprescriptibles, des crimes de torture, des crimes de viol.
Et alors, dans le cas présent qui concerne le général Sanogo et ses co-accusés, l'article 4 n'a pas pu être appliqué.
Et tout à fait, c'est ce que nous avons regretté et c'est ce que nous avons dénoncé. Et parce qu'on s'attendait à ce que la Cour d'assises assoie sa décision sur cet article 4 pour aller au terme de ce procès. C'est ce qui n'a pas été fait. Et c'est là la déception des organisations de défense des droits de l'homme.
Mais on pourrait vous reprocher aussi le fait que au nom de la loi, vous avez demandé une liberté provisoire pour les accusés. C'est aussi au nom de la loi que le procès est interrompu. Enfin, qu'il n'y a pas de verdict, qu'il n'y a pas d'issue.
Non, c'est pas la même chose. On ne peut pas, de but en blanc, invoquer une loi dans sa généralité. Une loi a un contenu. Par rapport à la mise en liberté, et provisoire, c'est une disposition précise du code de procédure pénale qui le dit. En matière criminelle, le délai de détention provisoire est de 3 ans. Point. Et c'est très clair, c'est pas discutable. Mais dans le cadre de cette loi qu'on invoque, il y a une disposition qui soustrait certains crimes du champ d'application de la loi. C'est là où il y a l'interprétation. Et nous avons souhaité que l'interprétation aille dans le sens de la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire conduire les procès à son terme, situer les responsabilités et condamner les coupables et libérer les innocents.
Donc, M. Boiré, vous êtes partisan de ceux qui pensent qu'on aurait dû appliquer d'abord la loi, c'est-à-dire condamner, puisque les responsabilités semblent avoir été établies, les auteurs de cet assassinat et ensuite peut-être examiner la possibilité d'une amnistie ?
Oui, exactement. C'est ce qu'on a dit. On a dit l'impunité est la sève nourricière de la violation des droits de l'homme. Donc, il faut jamais instituer la culture de l'impunité. C'est dans ce cadre qu'il fallait conduire le procès à son terme. Et c'est à la justice d'examiner les faits, les éléments de preuve, et pour savoir qui est responsable et qui est innocent. Ça, ce n'est pas notre rôle. On a tout simplement demandé à ce que la justice aille à son terme en rendant un verdict. On ne s'immisce pas à la cour d'assises.
Allô, Monsieur Boiré. Allô.
Oui.
Oui, Monsieur Boiré. On a perdu la fin de vos propos. Vous disiez à la fin de vos propos.
Je disais que nous, notre combat, c'est le combat de la lutte contre l'impunité. Et nous avons souhaité que le procès aille à son terme sans nous immiscer à la cour d'assises.
Mais pourquoi, d'après vous, pourquoi ce procès n'est-il pas donc allé jusqu'à son terme ? Qui avait intérêt à ce que la procédure s'achève comme elle a été ?
Bon, écoutez, ça, il y a des supputations par rapport à l'immixtion des acteurs politiques d'un certain régime. Bon. Ça, c'est des
vous pourriez être plus précis parce que nous avons reçu, par exemple, ici le représentant du collectif des victimes qui dénonçait les pressions qu'il disait avoir fait l'objet de la part des religieux, des politiques. Il a nommément cité l'ancien Premier ministre Boubou Cissé d'avoir fait pression sur les familles des victimes pour accepter cet accord. Alors, ma question est celle-ci. Qui avait intérêt à ce qu'on n'établisse pas les circonstances réelles dans lesquelles ces 21 bérets rouges sont morts ou ont été tués ?
Ben, je n'ai aucune preuve par rapport à ces allégations. Bon, je les ai entendues en même temps que vous, mais ce qui est sûr, nous estimons qu'il y avait eu des menaces à un certain moment de la part des personnes poursuivies de déballer un certain nombre de secrets. Donc cela a dû jouer certainement. Mais on n'a aucune preuve, parce que ce sont des supputations, ce sont des allégations.
Monsieur Boiré, un des avocats de la défense a affirmé que les victimes ont presque toutes reçu des dédommagements. Est-ce que cet élément, justement, a joué en faveur des accusés?
Ça ne devrait pas jouer. Ça ne devrait pas jouer parce que on ne peut pas mettre la vie humaine sur le champ du commerce. Et nous sommes en matière de respect et de protection des droits de l'homme. La vie est hors commerce. Donc, on ne peut pas dire les gens ont été dédommagés, c'est suffisant pour empêcher le processus judiciaire d'aller à son terme.
En tout cas, M. Boiré, c'est l'un des arguments aussi avancés par la Cour d'assises qui a évoqué donc cette loi d'entente nationale et a également invoqué le fait qu'il y avait déjà un accord trouvé entre l'État et les familles de victimes. Peut-être avant d'écouter nos confrères Saint-Tiche, je voudrais que M. Boiré réponde peut-être très rapidement à cette question. Au regard, M. Boiré, du dénouement auquel on assiste aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'enlisement de ce procès était voulu, peut-être le temps de négocier et de trouver et signer cet accord avec les familles de victimes, sur lequel la justice s'est, entre autres, appuyée justement pour prononcer sa décision d'abandon?
Bon, ça aussi, c'est une allégation, parce que le premier motif du renvoi de ce procès, c'était pour les besoins de l'expertise. Parce que la première expertise des éléments du corps des personnes tuées, l'expertise avait été faite aux États-Unis. Donc les avocats de la défense ont fait valoir le fait que cet organe qui a fait cette expertise n'est pas reconnu au Mali. Et donc pour cette raison, on a confié l'expertise à une structure qui est habilitée à le faire au regard des textes maliens. Mais bon, par rapport au fait de bloquer la procédure judiciaire, nous ne comprenons pas objectivement pourquoi la Cour n'a pas pu fonder sa décision sur l'article 4 de la loi. Parce que même s'il devrait y avoir après réconciliation, comme d'aucuns le disent, ou entente, cette loi, il faut le rappeler, a été proposée exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix qui a été signé en Algérie. Et donc, on ne devrait pas greffer d'autres événements. En 2015, on ne devrait pas greffer d'autres crimes ou d'autres infractions à cette loi. Et c'est ce qui a été fait et c'est ce qui est déplorable.
Merci.
Même dans le contexte...
Merci, M. Boiré. Oui. Nous allons revenir à vous.
Peut-être lui permet de terminer ses propos.
Oui, je disais, même dans le contexte de la justice transitionnelle, le droit à la vérité est indispensable et incontournable. Et cela passe par une décision de justice. Après, les pardons peuvent intervenir, les victimes peuvent être indemnisées et on met en place un mécanisme de garantie de non-récurrence ou de non-répétition. Tout cela n'a pas été fait.
Merci
et c'est
beaucoup.
Ce qui est déplorable.
Nous allons écouter nos confrères invités également sur le sujet. Garé Amadou qui est à Niamey. Garé, est-ce que vous êtes là? Vous nous recevez?
Je suis là, madame. Je suis là.
D'accord. Alors, votre avis, beaucoup pensent que dans cette affaire, la justice malienne est devenue prisonnière de la politique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense effectivement que ce qui s'est passé, il y a eu une sorte d'arrangement entre militaires. Vous savez, on est quand même sous un régime de friction, malgré toutes les apparences. Et je suis d'accord avec mon confrère malien. C'est-à-dire que le dédommagement doit être la conséquence d'abord des décisions de justice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un procès à l'issue duquel, maintenant, l'État va décider de demander les victimes, par exemple, dans une opération de pardon. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais j'ai l'impression que les militaires ont pesé de tout leur poids pour mettre une chape de plomb sur cette affaire-là. Et je ne pense pas que les droits de l'homme ont été respectés. Et je pense que les droits des familles ont été quelque part bafoués parce que l'argent ne remplace pas le crime qui a été commis. Et de plus, ce qui est le plus important pour les Maliens aujourd'hui, c'est de connaître ce qui s'est réellement passé. Avant de pardonner, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est comme un dossier qu'on est en train de fermer de façon brutale, sans permettre aux Maliens de connaître de faire un compte.
Merci. Alors, Garé, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ange. Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Garé, d'autant plus que c'était, il a dit, hein, les militaires sont au pouvoir, mais l'affaire de l'assassinat des 21 bérets rouges était aussi une affaire de militaires entre bérets rouges, les contre-poutistes, et bérets verts, qui étaient des poutistes contre ATT à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'en allant plus loin dans ce procès, on aurait pu peut-être assister à une implosion au sein de l'armée? Peut-être que certains responsables actuels auraient pu être mis en cause?
Oui, à cette question, je ne pourrais pas répondre parce que n'étant pas sur le terrain. Mais sinon, tout ce que je pourrais dire, c'est que l'Afrique se ressemble. Quand je dis l'Afrique se ressemble, ça veut dire qu'au niveau de la justice, on constate une absence totale d'indépendance. En plus de l'absence de l'indépendance, il y a aussi l'illusion de politique dans le judiciaire. Et le troisième élément, c'est que les droits de l'homme ne sont pas tout à fait respectés partout en Afrique. Donc, pour dire que est-ce que c'est aller au fond de ce procès pour être un déclic, en tout cas, je ne pourrais me prononcer sur ce point-là.
Merci. Monsieur Boiré, oui. Allô? Monsieur Boiré, oui, est-ce que vous pensez que cette décision aurait des conséquences sur la justice malienne? Est-ce qu'elle sera de traces et peut-elle se décrédibiliser, se fourvoyer?
Justement, l'essence de notre combat, c'est d'éviter d'instituer une jurisprudence malheureuse en matière vraiment d'impunité. Et c'est cela que nous redoutons. Et c'est pour cette raison que nous avons dit il y a d'autres pistes qui restent.
Oui, vous l'avez dit, M. Boiré. Je parlais des conséquences de cette décision sur la justice malienne. Est-ce qu'elle s'est peut-être fourvoyée en prenant une telle décision politique plutôt que judiciaire que vous leur reprochez?
Bon, pas à toute la justice. Ben, nous reprochons le fait que la cour d'assises n'est pas allée au terme de ce procès. Sinon, pour la généralité, la justice doit faire sa mue. Cela est reconnu. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu une loi de programmation de la justice qui a été adoptée au Mali pour permettre de corriger un certain nombre d'insuffisances au niveau de notre justice. Et comme l'a rappelé mon confrère, à l'instar d'autres systèmes judiciaires en Afrique. Donc, mais nous mettons surtout le focus sur le dénouement malheureux de cette procédure. Et nous estimons que cela ne doit pas prospérer.
Liliane, nous arrivons presque à la fin de la première partie.
D'accord, on va marquer une pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et notre grand témoin cette semaine est Aguibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Il est à Bamako. Et nous avons deux confrères avec nous cette semaine, Garé Amadou, directeur de publication du journal Canard Déchaîné à Niamey au Niger, Ange Alla Issem, journaliste à la radio FM Liberté à N'Djamena au Tchad. Le débat BBC Afrique, Africa Radio est à suivre sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et ensuite, nous attendons vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Je vous en donne l'adresse facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tige, nous allons poursuivre encore quelques petites minutes notre débat sur le Mali.
Sur le Mali. Et Monsieur Boiré, des victimes, certaines victimes en tout cas, entendent porter l'affaire cette fois-ci au niveau régional et international. Quelles sont leurs chances?
Ben, ils ont toutes les chances. Moi, je pense que les juridictions régionales et internationales ont été créées pour parer aux insuffisances des juridictions nationales. Et c'est par rapport à des situations de ce genre. Lorsque la justice nationale ne veut pas rendre la justice, ou bien lorsque nous sentons que il y a une pression politique sur l'appareil judiciaire, et la porte reste ouverte par rapport aux juridictions internationales. Donc, je pense que les instruments juridiques existent dans ce domaine pour vraiment accompagner ces recours au niveau régional ou international.
Vous ne pensez pas que sur le plan régional ou international, la politique ou les politiciens maliens pourraient faire également pression ? Si réellement il y a eu pression dans le cas du procès en local ?
Bon, ce n'est pas évident, parce que c'est ce qu'on a dit, le temps de la justice, le mandat de la justice est différent du mandat politique, du mandat d'un régime politique ou d'un mandat politique. Donc, on peut être à la gouverne d'un pays pendant une période déterminée, mais la justice internationale est fondée sur l'imprescriptibilité, c'est-à-dire les poursuites sont possibles à tout moment. Et les exemples sont légion en la matière, je peux vous en citer.
Est-ce que M. Boiré, quand on regarde la réaction et la déception des certains membres des familles de victimes, est-ce qu'on ne dirait pas que finalement cette décision a éloigné la perspective de la réconciliation nationale sur laquelle s'est fondée justement la Cour d'assises à travers cette loi d'entente nationale pour annoncer donc l'extinction de la procédure ?
Exactement. C'est-à-dire, à rebours de ce que certains veulent faire croire, que ça participe du processus de réconciliation, nous pensons tout le contraire. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que les populations sachent la vérité. Et puis, dans le cadre d'un procès juste, équitable et rendu dans un délai raisonnable. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous pensons que ça va porter un coup vraiment au processus de réconciliation. Au-delà de la quantité de victimes ayant perçu des sommes d'argent, je pense qu'il y a toute la société qui assiste. Et puis, surtout, dans un pays en pleine crise où les violations graves des droits de l'homme continuent, parce que tous les jours, il y a des atteintes au droit à la vie. Et d'aucuns pourraient faire valoir cette jurisprudence en disant on a accordé à certains.
À un tel, pourquoi pas nous ?
Oui. Voilà.
D'accord. Donc, pas de justice selon vous, pas de réconciliation sans justice. Et vous parliez, Saint-Tich, vous posez la question en rappelant que vous avez dit qu'il s'agit d'une décision, d'une loi scélérate en évoquant cette loi d'entente nationale. Est-ce que, du coup, vous allez au niveau de la société civile demander l'abandon de cette loi ?
Mais justement, c'est le prochain combat, parce qu'il faut adapter cette loi dans le cadre de la justice transitionnelle. Et comme cette loi d'ailleurs le prévoit dans son article 4, c'est très important, il y a certains crimes qui ne doivent pas être couverts par une quelconque disposition légale. Et surtout pour qui sait avec quelle facilité les organes législatifs de nos pays adoptent les lois. Et tout régime pourrait commettre les crimes qu'il veut, inspirer une loi de son organe législatif pour effacer ou amnistier les crimes. Donc cela ne devrait pas être accepté.
Et pour ajouter à ce que Liliane dit, alors qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui va être fait de façon concrète justement au niveau de la société civile pour que cette loi ne puisse pas servir dans un autre procès ? Est-ce qu'il y a des actions déjà qui sont en vue, qui sont menées dans ce cadre ?
Non, nous sommes à la phase de réflexion parce que c'est pas un combat nouveau. Cette loi a été combattue. Maintenant, on avait espoir que certains crimes au moins allaient être soustrait de son champ d'application comme elle le prévoit, mais si on a un cas qui fonde notre doute et nos préoccupations, donc il y a lieu de reprendre vraiment le combat et à travers le plaidoyer, à travers la sensibilisation pour arriver purement et simplement à l'abrogation de cette loi et à l'adoption d'une nouvelle loi dans le cadre de la justice transitionnelle.
Merci. Saint-Tich, on va passer au prochain sujet ou
Une dernière question. Monsieur Boiré parlait tout à l'heure de ces violations des droits de l'homme qui sont vraiment nombreuses dans le pays. Je voudrais juste qu'il réagisse un peu sur le cas de Farabougou, par exemple, ou des autres villages hors de Bamako. On a des violations des droits de l'homme dans ces zones-là également. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes ?
Ben écoutez, nous nous en appelons à l'État, parce qu'en matière de droits de l'homme, c'est l'État qui est le principal débiteur. C'est l'État qui doit assurer la sécurité de toutes les personnes et de leurs biens sur le territoire national. Donc, par rapport à ces sièges, nous avons fait des déclarations, nous avons fait des courriers, nous avons fait des communiqués pour dénoncer l'impossibilité pour les populations de jouir de leurs droits à la sécurité, de leurs droits à l'intégrité physique, de leurs droits à l'éducation. Donc, c'est ça notre partition et nous allons continuer vraiment à faire cette dénonciation jusqu'à ce que l'État s'assume et joue son rôle de garant du respect et de la jouissance effective des droits de l'homme.
Merci, Monsieur Boiré.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite du débat BBC Afrique, Africa Radio avec notre invité cette semaine, M. Aguibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Il est à Bamako. Deux journalistes nous accompagnent. Ange Ala Issem, il est employé à la radio FM Liberté à N'Djamena au Tchad. Égaré Amadou, journaliste et directeur de publication du journal Canard Déchaîné à Niamey, au Niger. L'émission est à écouter ou réécouter sur nos sites internet bbcafrique.com et africaradio.com. Si vous voulez réagir et partager vos commentaires avec nous, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook. L'adresse est facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, nous allons au Tchad et je sais que vous êtes assez contente pour cela puisque on va parler de votre pays. Il y a eu cette semaine la rencontre entre Déby Itno et Succès Masra. Est-ce que cette rencontre a-t-elle permis de désamorcer la tension politique? L'annonce de la candidature du président sortant à la présidentielle du 11 avril avait entraîné des protestations, notamment dans la capitale N'Djamena. L'attaque contre le domicile de l'opposant et candidat déclaré va accentuer la tension et même créer une sorte de rupture entre pouvoir et opposition. Et je vais commencer avec notre confrère qui est à N'Djamena. Il s'agit de Ange Ala Issem. En acceptant, Ange, de s'entretenir avec le président candidat Idriss Déby Itno, Succès Masra, le leader du parti Les Transformateurs, a-t-il brisé la glace et comment déjà les autres responsables des partis d'opposition ont apprécié cette rencontre?
Oui, s'il faut dire, la rencontre Dr Succès Masra et le président Déby est un début d'un dialogue entre les deux. Parce que vous le disiez, c'était très 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 chaud pendant les un mois passé. Docteur Succès a dit qu'il maintient les 60 jours de colère avec des marches. Et s'il a reçu, sinon il a été reçu par Déby, ça semble être un peu une accalmie. Bon, dans les autres partis politiques, je ne pense pas que ça puisse fragiliser parce que déjà hier même, il a été reçu par l'ex-chef de file de l'opposition, le président de l'UNDR, M.
Saleh Kebzabo.
Oui, ils ont échangé. Et Saleh Kebzabo aussi maintient demain une marche dite pacifique, parce que le fait que Succès rencontre Déby, ça ne fragilise pas la détermination de ces hommes politiques. Si
c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble désormais, parce qu'on voit par exemple avec l'attaque contre le domicile d'un des candidats déclarés, par exemple M. Kebzabo et deux autres membres de l'opposition ensuite ont décidé de se retirer, de retirer leur candidature, mais pas Succès Masra, dont la candidature n'a pas été retenue ensuite. Mais est-ce que cela veut dire que cette rencontre inaugure un travail commun entre M. Kebzabo et M. Masra et peut-être l'ensemble de l'opposition?
Oui, tout à fait, parce que si déjà ils se sont retrouvés hier, c'est un début d'un consensus pour dire qu'ensemble nous pouvons travailler et arriver à un changement dont nous souhaitons depuis fort longtemps. Donc, on attend d'ici peut-être là les autres pour les rejoindre, afin que le mouvement soit commun. Parce que, figurez-vous, il y a quelques semaines, Succès partait de son côté avec une fougue pour pouvoir changer le régime de ce pays. Kebzabo, lui, il se revient simplement en disant que je ne participe pas parce que les droits de l'homme ne sont pas garantis. Et même si je pars, est-ce que j'aurai la sécurité dans le pays, sinon dans le Tchad profond, afin de battre normalement ma campagne? Donc, je ne peux pas. C'était une résignation. Mais déjà, lorsque le président Déby a reçu M. Martha Sixé, et que si Martha Sixé fait cet effort pour aller voir M. Salih Kebzabo, je pense qu'il y a un début de synergie, de lutte commune, afin d'arriver à un objectif dont tout le monde aspire.
Donc, si je vous comprends bien, Ange, c'est que, pour, contrairement à ce que le camp du président sortant dit, que cette rencontre entre le maréchal et docteur Masra Sucsé était à l'initiative du président sortant et que c'est un bon point pour le camp du président, vous estimez que ce n'est pas le cas et que cela ne change rien à la détermination de l'opposition, à l'union qu'on peut voir au sein de l'opposition ?
Ça ne change absolument rien. Parce que si vous...
Pourtant, il y a eu des critiques. Il y a eu beaucoup de critiques à l'encontre du docteur Masra Sucsé.
Oui, si vous suivez bien les deux hommes, Idriss Déby parle de... Il dit que cette rencontre a permis d'évaluer, sinon échanger autour de l'état d'avancement du pays. Par contre, Sucsé, lui, parle de la transition pacifique du pouvoir. Donc, ça veut dire que les deux hommes même n'ont pas un langage commun. Maintenant, du côté de Sucsé, c'est vrai, ça fait une fissure au sein du parti Les Transformateurs. Déjà, entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas déjà.
Le fait que Déby, un de ses conseillers l'a désavoué publiquement.
Oui, parce que Déby a reçu Masra Sucsé dans une des villas privées et non à la présidence. Même la rencontre n'a pas été annoncée, c'était en catimini. Donc, le fait que Sucsé soit reçu dans une villa privée de M. Déby, le fait que cette rencontre ne soit pas annoncée fragilise déjà le parti Sucsé. Et je discutais avec quelqu'un il y a quelques heures. Il me disait que déjà la base n'est plus d'accord avec Sucsé pour eux. Sucsé est allé voir Déby, il a pris sa part et puis voilà, il les a abandonnés dans le désarroi.
Ce qu'il a formellement nié et réfuté.
Je vais peut-être donner la parole à notre invité. Monsieur Boiré. Allô?
Oui,
cette rencontre entre l'une des figures de l'opposition tchadienne et M. Déby, dans les conditions que vient de décrire notre confrère Ange, et cette rencontre qui commence déjà à avoir des conséquences plutôt négatives sur l'unité de l'opposition et même créer des fissures au sein du parti Les Transformateurs. Est-ce que peut-être c'était finalement ça le but du président Déby?
Bon, moi, je mettre l'accent surtout sur les situations de violation des droits de l'homme regrettables que nous avons connues au Tchad, en passant par l'agression d'un opposant jusqu'à son domicile. Je pense que la démocratie africaine n'a pas besoin de ce genre d'incidents. Tout ce que nous pouvons souhaiter et recommander en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est vraiment des processus électoraux paisibles et dans le strict respect des droits de l'homme.
Est-ce qu'on y est parti? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le 11 avril, il y ait cette élection apaisée avec ce que vous venez de décrire et malgré cette rencontre entre les deux hommes?
Ben, c'est ce que nous souhaitons vraiment à ces pays frères qui aident beaucoup le Mali à travers une forte mobilisation de ses forces armées. Et vraiment, nous ne souhaiterons pas qu'il y ait une instabilité encore dans ces pays par rapport à un processus électoral. Et au-delà, il est temps que l'Afrique sorte des problèmes par rapport à des processus électoraux. C'est toujours des occasions de violence, de déstabilisation. Il est temps qu'on ferme cette page. Et je ne peux qu'exprimer des vœux et pour que l'élection se passe dans le plus grand calme et dans le plus grand respect des règles de la démocratie.
Merci, M. Boiré.
Nous allons écouter Garé.
Oui, madame.
Sur cette présidentielle tchadienne prévue le 11 avril, est-ce que elle est justement cette actualité est suivie à Niamey? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, bien sûr, l'actualité tchadienne est suivie à Niamey, parce que d'abord, nous avons une forte communauté tchadienne ici au Niger. En plus, vous savez que sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le Niger et le Tchad sont pratiquement main dans la main pour essayer de combattre les leaders terroristes. Cette situation au niveau du Tchad, elle est un peu... c'est une situation que peut-être qui était un peu prévisible, parce que le Tchad, quand même, vit depuis plus de très longtemps sur le jeu, en tout cas sur la direction du CBIT, non ? N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, cette fois-ci, on a constaté pour la première fois un regain de force au niveau de la société civile et des partis politiques qui ont fait, en tout cas, qui ont organisé des manifestations et qui prévoient d'en organiser d'autres pour montrer un peu une sorte de ras-le-bol contre le régime de Idriss Déby. Et cette fois-ci, je pense que le président Idriss Déby a compris que d'abord, les contextes ne sont pas les mêmes et qu'il fallait tout simplement prendre la mesure du problème et essayer de l'éradiquer. Et je crois que ce qu'il a fait, il a compris qu'il fallait tout simplement créer une fissure au sein de l'opposition pour essayer de l'affaiblir et faire en sorte que le mouvement de contestation là puisse s'arrêter.
Mais Ange, notre confrère N'Djamena le dit et le réaffirme, l'opposition, malgré cette rencontre, reste déterminée. Les marches sont toujours prévues. Justement, ce samedi, il y a une marche qui est prévue, qui a été interdite par le ministère de l'Intérieur.
Oui, le problème, vous savez, au niveau des oppositions en Afrique, c'est que plus la date fatidique approche, la date des élections approche, plus on constate des fissures. L'impossibilité pour les opposants de faire un front commun, d'avoir même un candidat unique contre Idriss Déby, fait que, franchement, ce mouvement-là risque de ne pas faire un feu.
Allô, la ligne se dégrade avec vous. Garé, on va. Oui, désolé, allez-y.
Oui, donc je disais, le problème des opposants en Afrique, des oppositions politiques en Afrique, c'est que. Il y a l'impossibilité pour les opposants de taire leurs divergences et de faire un front commun. Il aurait mieux fallu pour les opposants, par exemple, contre un candidat, en tout cas aussi puissant que Idriss Déby, d'avoir un candidat unique au niveau de l'opposition pour essayer de lui faire barrage. Mais vous avez vu, même les opposants n'ont pas pu mettre une candidature unique.
Merci.
Et en plus, d'autres ont désisté. Et c'est vraiment ce qui rend compliqué leur lutte en réalité.
Merci beaucoup. Ange, est-ce que finalement cette rencontre ne divise pas davantage l'opposition plutôt qu'elle ne l'unit ? Qui est le grand vainqueur de cette rencontre qui est, on l'a dit, surprenante ? Et je voudrais peut-être partager avec vous cette anecdote. Il y a deux semaines, nous avons organisé une émission sur la crise politique tchadienne. Le porte-parole du MPS, Maître Padaré, a décidé de quitter en direct le plateau, tout simplement parce qu'il ne voulait pas de succès Mazra, il ne voulait pas débattre avec lui. Alors, quand on observe que quelques jours plus tard, le président Déby le reçoit, c'est quand même une surprise. Alors, on peut se demander à qui profite cette rencontre que vous dites n'avoir pas été annoncée.
Madame, cette rencontre profite bien évidemment à Idriss Déby Itno, parce que Idriss Déby Itno s'était rendu compte que c'est l'heure de faire la main avec Dr. Succès Massa. Parce que, comme vous le dites, au sein même du MPS, il y a cette division. Il y a des intégristes, sinon les extrémistes, j'allais dire, hein, au sein du parti MPS et en même temps des extrémistes au sein du parti Les Transformateurs. Parce que pour beaucoup, si Déby a reçu Transformateur, parce qu'il a manqué de ce pour eux. Parce qu'il leur a fait comprendre que Succès n'est pas un parti reconnu, donc impossible de dialoguer avec lui. Mais si lui n'informe pas et qu'en catimini il reçoit Docteur Succès, ça veut dire qu'il a déçu le MPS. Donc il y a les, comme je le disais, il y a les extrémistes du MPS qui ne sont pas d'accord que Déby reçoive Succès. Il y a les extrémistes, les Transformateurs, qui ne sont pas aussi d'accord que Déby reçoive. Parce que Déby, quand il vous reçoit, imaginez la suite, parce que c'est quelqu'un qui est trop fin stratège en politique, et donc en vous.
Donc recevant, vous diriez que Succès Massra est au-delà de l'opposition, c'est peut-être fait avoir, c'est peut-être fait avoir.
Oui, il s'est fait avoir. Le fait qu'il ait accepté de partir sans informer même les autres membres de son parti, parce que le jour où on a appris que Succès était en train d'être reçu par le président Déby, on a appelé certains de ses proches, ils disent que non, ils sont pas informés, mais qu'ils vont gérer ça en famille. Le fait qu'il n'ait pas informé même les autres membres du bureau et qu'il se retrouve avec deux autres pour partir voir Déby en catimini, ça veut dire que Succès perd à ce niveau, parce que même beaucoup, je dirais qu'il n'y aura plus la fougue que les jeunes avaient auparavant quand il y a marche. Je m'attends à la marche de demain pour voir si est-ce que la même population pourrait sortir comme elle a l'habitude de sortir. En bon tchadien, si Déby vous reçoit, pour eux, vous êtes déjà corrompu. Donc, pour cette rencontre, le président Déby sort gagnant. Et ce qu'il pourrait faire, peut-être. Oui.
Peut-être vous faire réagir rapidement. On est presque à la fin de cette deuxième partie. Rapidement sur cet appel au dialogue national lancé par Succès Masra et également cet appel de Saleh Kebzabo aux opposants. Il a tenu une conférence de presse ce vendredi où il appelle les autres opposants en lice à se retirer. Ces deux appels ont-ils des chances d'être entendus?
Oui, pour Kebzabo, ça pourrait être entendu, mais pour Succès, je dirais que c'est une patate chaude que Déby lui a donnée, parce que, voyant la configuration politique au Tchad, demander à Succès d'aller vers les autres pour qu'ils fassent des propositions par écrit et lui transmettre, je pourrais que c'est pas évident que les autres partis puissent s'unir derrière Massa pour pouvoir faire la proposition. Parce que c'est dilatoire, Déby est en train de faire, pour apaiser un peu la tension et organiser tranquillement les élections du 11 avril.
Merci. Merci beaucoup.
Merci bien.
On va Saint-Tiche, il nous reste une dizaine de minutes pour parler du dernier sujet, le Niger.
Et on va en parler, bien sûr, Liliane. Avec cette attaque du village Bani Bangou dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, une attaque des plus meurtrières, 58 villageois tués alors qu'ils rentraient de leur marché hebdomadaire. Selon des témoignages, des hommes armés auraient mené l'attaque sur deux axes routiers empruntés par les commerçants. Les assaillants auraient ensuite brûlé les greniers dans les villages avoisinants, obligeant ainsi les habitants à quitter les lieux. Et cette attaque intervient quelques jours normalement après l'arrivée justement des troupes tchadiennes dans la zone des trois frontières. Garé Abadou, vous êtes à Niamey. Il y a eu après cette attaque un Conseil national de sécurité extraordinaire pour la région de Tillabéri qui a duré 3 jours. Qu'est-ce qui est sorti de ce Conseil national de sécurité extraordinaire?
Bon, le Conseil national de défense, je crois que l'une des décisions les plus importantes que le Conseil a prises, c'est le deuil national de 3 jours qui a été décrété. Mais concernant les mesures sécuritaires qui sont prises, elles sont du domaine du secret défense, je pense. Et on n'a pas la teneur de ce Conseil national de la défense qui a été présidé par le président de la République avec la hiérarchie militaire.
Mais il n'y a eu aucune annonce d'un renforcement de sécurité pour la zone de Tillabéri.
Bien sûr.
Oui,
vous savez, la région de Tillabéri est déjà une zone de guerre par excellence. Parce que déjà, il y a deux opérations militaires de grande envergure qui sont en train d'être menées depuis plusieurs années. Il y a l'opération Al-Bahaou et l'opération Dongo. Ils sont en train d'être menées par les forces de défense et de sécurité du Niger en relation avec les partenaires du Niger, notamment les forces Barkhane et le G5 Sahel. Donc, ce sont des opérations qui sont en train d'être menées. Mais malheureusement, le Niger a une frontière qui fait 826 km avec le Mali. 826 km. C'est très compliqué de contrôler une frontière de 826 km, mais les efforts sont en train d'être faits. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un changement de tactique au niveau des terroristes. Avant, on constatait les attaques contre les camps militaires, ce qui s'est passé à Inates, ce qui s'est passé
à Chinagoder en janvier 2020.
Voilà, c'était des attaques contre les frontières militaires. Mais aujourd'hui, il semble apparaître qu'il y a une pression excessive sur les djihadistes. Il fait qu'on ne peut plus avoir la capacité d'attaquer les camps militaires. De plus, aujourd'hui, les camps militaires sont un peu mobiles dans la région de Tillabéri. Donc, ce n'est plus des questions statiques. On peut attaquer et retourner. Aujourd'hui, ce que les djihadistes cherchent, c'est attaquer les populations civiles.
Et les pousser à partir.
Oui, c'est les déjà à partir, mais surtout créer, à contacter au Mali, avec les conflits intercommunautaires, faire en sorte qu'il y ait du défensement d'une communauté contre une autre. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez que les groupes djihadistes, il y a toutes les obédiences, bien sûr, sociales ou sociales.
Merci.
Il y a des groupes peuls, etc., etc. Maintenant, ils essaient de créer une sorte de distinction entre les communautés. Et bien, heureusement, je pense que le Niger est un pays qui a une tradition de parenté à présenter. Les terroristes n'ont pas pu jusqu'à présent faire en sorte que ce qui s'est passé au Mali puisse se passer au Niger.
Merci Garé. C'est vrai que l'écoute est assez laborieuse avec le Niger. Nous nous en excusons auprès de nos auditeurs. Mais peut-être très rapidement, Garé, oui, vous dites qu'il y a une longue frontière qui fait que l'armée ne peut pas tout contrôler. Il y a ce changement de stratégie des forces rebelles. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas quand même parler ici de défaillance inexplicable au niveau de renseignements de la part des forces de défense. Parce que vous-même, vous venez d'évoquer qu'en janvier 2020, il y a eu quand même cette attaque lourde au niveau humain à Shinagoder. Donc la zone de Tillabéri est reconnue aujourd'hui comme l'une des zones qu'il faut le plus surveiller. Est-ce que cela n'impose pas un renforcement du renseignement et un dispositif, une stratégie particulière de la part des forces armées nigériennes dans cette région?
Mais c'est clair qu'il est évident que l'État nigérien a compris qu'il faut renforcer un peu plus la sécurité au niveau de la région de Tillabéri. Je crois qu'il y a quelques mois de cela, le ministre de la Défense était devant les députés nationaux et il a fait savoir que l'un des problèmes de l'armée nigérienne, c'était un problème d'effectif et que, en tout cas, la politique actuelle qu'il va mener, c'est de faire en sorte que les effectifs de l'armée puissent s'accroître. Mais j'ai dit, le problème de renseignement, il est là, c'est clair. Mais surtout, je pense que c'est le problème de l'absence de l'État dans les localités qui sont frontalières avec le Mali. L'État n'est pas présent. Et ça fait en sorte que, même si les populations veulent collaborer avec les forces de défense et de sécurité, étant donné que l'ennemi est parfois au sein des populations, je veux dire, les complices ethniques sont parfois au sein des populations, il est difficile pour ces populations-là
de dénoncer, puisque l'État ne sera pas là pour les protéger en cas de représailles.
Voilà, parce qu'il y a des représailles, il y a des gens qui ont été égorgés suite à des dénonciations, etc.
Merci.
C'est une situation difficile de laquelle vit cette situation-là.
Il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît.
Oui, pour écouter l'invité.
Monsieur Boiré.
Oui.
Oui, sur cette attaque, une autre énième attaque dans la zone de Tillabéri.
C'est regrettable. Malheureusement, c'est un fléau commun à nos trois pays, principalement. Et donc, ce qui est déplorable, c'est que c'est le même scénario, c'est le même modus operandi. Et on a beau changer de stratégie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les attaques continuent. Et moi, je pense plutôt qu'on devrait s'intéresser aux causes profondes de ce terrorisme. Et contrairement à l'idée largement répandue, la part de la religion est vraiment minime.
Allô? Saint-Tiche, je crois qu'on a perdu notre invité Boiré. On va donner la parole à notre frère.
Ange. Oui, Ange.
Oui.
Une réaction sur cette attaque au Niger avec les terroristes qui changent de mode opératoire, comme l'a expliqué le confrère Garé.
Et peut-être pour vous compléter, oui, madame... Saint-Tiche, est-ce que l'envoi peut-être de l'armée, du renfort tchadien va très rapidement, dans un court délai, faire la différence?
Non, je ne pense pas. Ça ne pourrait pas faire la différence. Nous déplorons cette attaque. Il faut dire que pour solutionner ce problème, il faut que les dirigeants changent leur manière de gouverner. Parce que aujourd'hui, s'il y a ce terrorisme, c'est parce qu'il y a la malgouvernance. Et la malgouvernance conduit à cet extrémisme-là. Donc, il faut créer de l'emploi aux gens. Il faut que les droits de l'homme soient respectés. Et quand tout sera mis en ordre, je crois qu'on en arrivera à une solution. Mais envoyer les militaires, ce n'est pas l'une des solutions pour moi. Il faut changer les méthodes, sinon les modes de gouvernance et on pourrait arriver à une solution.
Saint-Tiche, on va peut-être écouter à présent les réactions de nos auditeurs laissées sur la page Facebook et préparées, présentées par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Fin du procès du général Sanogo, Jean Zounon estime que c'est déplorable que le procès du général Sanogo n'ait pas connu un verdict à cause d'une loi d'amnistie controversée. Mais une loi reste une loi et s'impose à tout le monde, estime notre internaute, qui appelle tout de même les autorités maliennes à trouver le mécanisme idéal pour indemniser toutes les familles des victimes afin que cette loi serve vraiment à la réconciliation. Cyrus Nabegué, quant à lui, pense que la junte au pouvoir a influencé le verdict du procès du général Sanogo. Tchad Alafi Bokassa affirme que le président Idriss Déby n'a jamais été un démocrate et que son entretien avec un membre de l'opposition vise juste à réhabiliter son image à l'international, étant donné la démission en cascade des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle. Pour Hissène Ouadraogo Oley Hidimi, l'opposition tchadienne a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple. Merci à Emmanuel Dossouvi pour sa fidélité, lui qui nous suit chaque week-end depuis Cotonou au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
À vous aussi, Didier Ladislas Lando. On va peut-être conclure avec notre invité en lieu, demandant qu'on a retrouvé d'ailleurs M. Boiré, de répondre à cette question de l'auditeur. La junte actuelle a influencé l'issue du procès Sanogo?
Ben, c'est ce qui s'est dit dans les couloirs. Mais nous avons cherché à nous en assurer auprès des plus hautes autorités. Et nous avons rencontré le chef du département de la justice qui nous a assuré qu'il n'en était rien. Donc on ne pouvait que se contenter d'un tel avis. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait des éléments de preuve, nous estimons que la justice devrait jouir de son indépendance et aller au terme de ce procès.
Et d'après vous, a-t-elle réellement joui de cette indépendance dans ce procès, Sanogo?
Bon, puisque les syndicats de la justice même estiment que les magistrats n'ont pas subi de pression, c'est tout ce que nous recherchons. Nous ne pouvons que nous en tenir à cette position. Mais pour autant, nous continuerons à réclamer justice par rapport au cas de violation des droits de l'homme, soit au Mali, soit à l'international.
Merci beaucoup, Monsieur Aguibou Boiré, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Vous étiez notre invité cette semaine. Merci à Ange Ala Issem, journaliste à Radio FM Liberté à N'Djamena au Tchad, et à notre confrère nigérien Gary Amadou, journaliste et directeur de publication du journal Canard Déchaîné à Niamey. Réalisation à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Votre émission, c'est à écouter ou réécouter quand vous le souhaitez sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous, Saint-Tige Mantar Tomté.
Et très bonne semaine à vous, Lina.
Et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
Bien sûr.
Au revoir.